Actes Sud Audio présente.
Actes Sud Audio présente.
L'araignée de Lars Kepler, traduit du suédois par Marianne Segol-Samoy, lu par Slimane Yefsa. Lars Kepler tient à prévenir les lecteurs que certains événements de son roman Lazare, ainsi que des détails du marchand de sable, seront révélés dans l'araignée. En Suède, il a existé un tueur en série du nom de Jurek Walter. En termes de cruauté et de nombre de victimes, il a surpassé tous les autres tueurs d'Europe du Nord. Il a été arrêté par l'inspecteur Juna Lina. Comme Juna ne croit pas au mal inné ou métaphysique, il préfère dire qu'au fil des années, Jurek a perdu la part d'âme qui confère à chacun de nous son humanité. Parmi les rares personnes qui ont croisé Jurek, la plupart diraient probablement que le monde est meilleur sans lui. Jurek Walter est mort. Mais ce qui disparaît ne s'efface jamais totalement. Les choses changent simplement de place. Et ce qui n'est plus laisse derrière lui un vide dangereux qui sera comblé d'une manière ou d'une autre. Chapitre 1. Lancé au galop, le cheval de Margot Silverman foule les copeaux de bois qui jonchent le sol. Les arbres défilent le long de la piste éclairée. Ils s'assombrissent, puis disparaissent totalement, avant d'être captés à nouveau par les faisceaux du prochain réverbère. En cette fin de journée d'août, le ciel est sombre et l'air glacial. Margot est directrice de la NOA, la section opérationnelle de la police suédoise. Quatre fois par semaine, elle vient faire de l'équitation à Värmdö pour se vider la tête et se recentrer. Elle aime sentir son pouls s'accélérer au rythme des foulées du cheval. Des fragments du paysage apparaissent par intermittence dans un rayon de lumière. Un arbre déraciné. Un chemin broussailleux à travers les bois. Un pull mouillé avec un smiley posé sur un poteau au bord de la route. Elle se penche en avant et laisse le vent lui fouetter le visage. Les quelques secondes de suspension qui suivent le troisième temps du galop, lorsque le cheval perd le contact avec le sol, procurent à Margot des picotements dans le bas-ventre. Catullus est un hongre suédois à sang chaud, avec de longues jambes et un cou épais. Il suffit à Margot de cambrer les reins et d'ouvrir légèrement les genoux pour le pousser à accélérer. Son épaisse tresse frappe son dos au rythme de la course. Dans la clairière, un chevreuil traverse en courant les fougères qui ondulent sous la brise. Au niveau du dernier tronçon, les réverbères ne fonctionnent pas. Margot ne distingue plus le sol devant elle. Elle ferme les yeux, fait confiance à la vision nocturne de Catullus et se laisse porter par le mouvement parfait et ondoyant du cheval. Lorsqu'elle les ouvre à nouveau, elle aperçoit les lumières de l'écurie entre les arbres et ralentit l'allure. La sueur dégouline entre ses seins et dans son dos. Après une heure d'entraînement fractionné, elle sent ses muscles la brûler au niveau des cuisses et de l'aine. Elle franchit la grille et met le pied à terre. Il est presque 23 heures et sa Citroën gris argenté est la seule voiture qui reste sur le parking. Dans la pénombre, elle conduit Catullus vers l'écurie. Seuls les sabots de l'animal qui piétinent l'herbe sèche et le cliquetis de son harnais viennent troubler le silence. Soudain, des bruits sourds retentissent en provenance de l'un des box. Catullus s'arrête net, lève la tête et recule de quelques pas. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande Margot en scrutant l'obscurité en direction du tracteur et des buissons d'ortie. Le cheval semble effrayé. Il expire bruyamment par les naseaux. Elle lui caresse le cou pour le calmer en essayant de le faire avancer vers l'entrée, mais il résiste. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux ?» Le corps de l'animal tremble. Il opère brusquement un demi-tour comme s'il était sur le point de s'enfuir. « Oh, oh !» lance-t-elle, en levant les rênes pour le freiner. Margot le dirige fermement. Elle lui fait faire un demi-cercle dans l'herbe haute du pré, puis sur le gravier crissant. Les trois appliques lumineuses dessinent leurs ombres nettes sur la façade de l'écurie. Catullus renacle de nouveau et baisse la tête. Avec un frisson, Margot scrute à nouveau l'obscurité. Une fois arrivée dans la lumière de l'écurie, elle enlève son casque. Le bout de son nez est rougi par le froid et sa tresse blonde repose lourdement sur le tissu matelassé de sa veste. Au-dessus de ses bottes, son pantalon d'équitation est maculé de terre. Le bâtiment dégage une forte odeur de foin et de fumier. Dans leur box, les chevaux sont silencieux. Elle conduit Catulus le long de l'allée jusqu'à la salle de douche, lui enlève sa selle et la suspend dans la sellerie chauffée. Les étriers s'entrechoquent en heurtant le mur. Avant de pouvoir rentrer chez elle, Margot doit encore laver Catulus, poser une couverture sur son dos, le nourrir, lui donner un peu de sel et éteindre toutes les lumières. Elle fouille dans la poche de sa veste afin de s'assurer qu'elle n'a pas fait tomber la vieille flasque en argent de son père, qu'elle a remplie de désinfectant pour les mains. Ce n'est pas tant pour son contenu, mais l'objet lui porte chance. La porte qui donne sur le parterre de gravier émet un long grincement. Margot ressent un malaise. Elle fait quelques pas et jette un œil dans l'allée. Catulus piétine nerveusement. Un léger filet d'eau s'écoule du tuyau d'arrosage, puis cherche son chemin sur le grattoir à sueur avant de tomber au sol. Dans un box voisin, un cheval s'ébroue et frappe le sol de ses sabots. L'armoire électrique se met à bourdonner. « Y a quelqu'un ?» appelle Margot. Elle retient son souffle, immobile, les yeux rivés sur la porte et l'obscurité derrière la fenêtre. Puis elle se tourne vers Catulus. La lumière du plafonnier se reflète dans l'œil du cheval. Elle hésite une seconde. Attrape son portable et appelle Johanna qui ne répond pas. Une boule d'angoisse commence à se former dans son ventre. Depuis 2 semaines, Margot se sent observée. Elle s'est même demandé si la SU ou la CEPO ne la surveillaient pas pour une raison qu'elle ignore. Elle n'est pas particulièrement paranoïaque, mais des appels anonymes et la disparition d'une paire de boucles d'oreilles ont éveillé ses soupçons. Et si elle ou Johanna était traquée? Elle compose à nouveau le numéro. La sonnerie retentit longuement. Margot sent qu'elle s'enfonce dans des eaux profondes, mais juste avant qu'elle soit renvoyée sur la messagerie vocale, la voix de Johanna se fait entendre. « Trempée et toute nue. Pourquoi je t'appelle tout le temps quand tu es sous la douche ?» sourit Margot. « Attends, je te mets sur haut-parleur. » Margot entend un léger bruissement, puis le son change de texture. Elle a le temps de penser que Johanna se tient nue dans leur chambre éclairée, visible depuis le verger. « Allô ? Je suis en train de me sécher, » dit Johanna. « Tu es sur le chemin du retour ? Il faut juste que je rince le petit gars. Fais attention sur la route. » Margot entend Johanna se frotter énergiquement avec sa serviette. « Ferme les rideaux et vérifie que la porte est bien verrouillée. On se croirait dans Scream, » plaisante Johanna. « En fait, t'es dans le jardin en train de me regarder et avant que j'aie eu le temps de fermer la porte, tu seras à l'intérieur, c'est ça ?
C'est pas drôle.
Ok, chef. »
Je n'ai même plus envie d'être chef. Je suis pas doué pour ça. Je me préférais dans le rôle d'inspectrice, même si j'étais un peu trop sûr de moi. Mais là...
Arrête ! L'interrompt Johanna. Moi, j'aimerais bien t'avoir comme chef.
Oh là là !
Rit Margot. Au moment où elle entend Johanna tirer les rideaux, un bruit métallique résonne contre un des radiateurs de l'écurie.
Allume la sirène et rentre tout de suite à la maison.
Lui intime Johanna à une certaine distance du téléphone.
« Tu as réussi à coucher les filles ?»«
Alva se demande si tu ne préfères pas ton cheval à elle. »«
Aïe, aïe !»
rit Margot. À peine a-t-elle raccroché que Margot sent le malaise la saisir à nouveau. Le cliquetis contre le radiateur continue un instant avant de s'estomper. Ça doit être les harnais d'attelage suspendus dans l'allée qui s'entrechoquent, tente-t-elle de se rassurer. La paroi d'un des box craque sous le poids d'un cheval qui y appuie son flanc. Alors qu'elle se tourne vers la porte, son regard est attiré par une ombre près de la grainoterie. Elle se dit qu'il s'agit probablement de l'armoire où sont rangés les balais, les pelles et les grattoirs, même si elle lui semble plus proche qu'elle ne devrait. Le vent a gagné en force. Il rugit en roulant sur le toit en zinc et fait gémir les charnières des fenêtres. Alors qu'elle avance le long de l'allée, elle voit défiler du coin de l'œil les barreaux des box et les lourdes têtes des chevaux qui se dessinent sur le mur à la lueur des plafonniers.
Elle s'efforce de ne pas rappeler Johanna pour lui demander de vérifier que la porte de la cuisine est bien fermée. Les enfants la laissent toujours entrebâillée. Il faut juste qu'elle s'occupe de Catulus. Puis elle rentrera chez elle, prendra une douche, se glissera dans son lit bien douillé et s'endormira. La lumière vacille et devient plus faible. Elle s'immobilise, tend l'oreille et jette un œil en direction du vestiaire de la salle de douche. Le silence. Puis un tic-tac rapide, comme si une pelote de fil d'argent roulait sur le sol. Lorsqu'elle se retourne, le son s'arrête. Impossible de savoir d'où ça vient. Elle scrute la porte et la nuit au-delà. Le tic-tac reprend derrière elle. Il se rapproche maintenant à toute vitesse. Au moment où Catulus lève la tête effrayée, Margot sent un choc violent l'atteindre dans le bas du dos. Elle a le temps de penser qu'elle a reçu un coup de sabot avant de s'écrouler. En un clin d'œil, le monde disparaît. Il ne reste que cette violente douleur qui pulse dans sa tête. Elle est allongée sur le ventre, le visage contre le sol en béton. Son dos irradie d'une douleur inconnue. Une odeur âcre flotte dans l'air. Au moment où elle réalise qu'on lui a tiré dessus, une note aiguë lui transperce les oreilles. Les chevaux s'agitent, ils renâclent et se ruent contre les parois. Margot sent qu'elle saigne abondamment. Son cœur bat beaucoup trop vite. Merde. Merde. Elle se dit qu'elle doit se lever, rentrer chez elle et dire à ses filles qu'elle les aime plus que tout. Elle sent une présence qui s'approche. Elle a peur de mourir. Un grincement s'élève près de son oreille et toujours ce même bruit métallique contre le radiateur. Le bas de son corps est comme anesthésié. Mais elle sent qu'elle est traînée par les jambes. Les os de ses hanches raclent le sol. Elle essaie de s'agripper à une mangeoire. Mais elle est trop faible. Un seau se renverse et roule sur quelques mètres. Sa veste et son t-shirt lui remontent jusqu'au cou. Sa respiration devient courte et la douleur se propage par vagues dans sa poitrine comme des coups de hache. La balle a dû traverser sa colonne vertébrale. Elle est traînée comme un animal abattu. Ses pensées deviennent floues et étranges. Elle s'imagine ballottée dans le courant comme un petit bateau d'enfant en écorce, planant comme un zeppelin au-dessus des champs. Elle sait qu'elle ne doit pas abandonner, mais elle est si faible qu'elle n'a pas la force de lever la tête. Son visage cogne contre le béton. La dernière pensée de Margot, avant de perdre connaissance, est pour la trace de sang brillante qu'elle laisse derrière elle.